Économie et finances, une chronique de Jean-Louis Chambon sur Canal Académie.
Le métier de dirigeant à l'épreuve du nouveau monde. Avec le philosophe et académicien Michel Serres, on peut affirmer que la crise n'est qu'une toute petite ride sur la surface de l'histoire et de facto relativiser certains événements récents et le spectacle politico-médiatique. Reste toutefois que la lucidité commande de prendre en compte une autre réalité. Le monde ancien est mort et avec lui, le modèle dominant du tous contre tous et chacun pour soi, enfin en tout cas, on l'espère. La naissance du XXIe siècle a accéléré celle d'un nouveau monde, accompagné des deux seules passions que, selon Aristote, et ceci depuis la nuit des temps, retiennent l'intérêt des foules, la terreur et la pitié. Parmi les ruptures profondes de ce changement d'ère, deux paraissent devoir interpeller la classe dirigeante. Primo, le constat que l'hyperpuissance ne sert à rien, ni pour gagner les guerres, confère le Vietnam, confère l'Irak, ni pour gouverner l'ordre économique et financier mondial, ce qui vaut pour les États et justifié aussi pour les entreprises, confère General Motors, Enron ou Lehman Brothers. Secondo, les contre-pouvoirs ont changé de nature et de forme. Moins politico-financiers, plus subtils et moins frontaux, on préfère naturellement le jeu de go de sensibilité asiatique plutôt que celui des échecs, stratégie préférée des anglo-saxons et des slaves, ces contre-pouvoirs sont devenus médiatico-populaires. Aussi, l'émergence d'une opinion monde s'est substituée aux formes légales de la démocratie, entraînant avec elle l'effacement progressif du volontarisme politique vers une forme de suivisme et au pire, dans les moments de crise aiguë, à des formes d'anticipation ou de manipulation de l'opinion avec des risques d'effet boomerang que la classe politique et les médias paraissent ne pas avoir encore intégré, mais ceci est une autre histoire. Moraliser est devenu le fil d'Ariane d'un discours universel mondialisé. C'est dans ce contexte déstabilisateur et à l'épreuve de l'opinion que les dirigeants, chefs d'entreprise et dirigeants salariés doivent réapprendre l'exercice de leur métier. Certes, la mission et l'idéal restent les mêmes, c'est-à-dire conduire les entreprises à bon port dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Ce sont les lettres de noblesse d'un métier, certes enthousiasmant, mais ô combien exposé et exigeant. L'actualité nous en apporte la preuve tous les jours. Diriger et en assumer les responsabilités reste l'expression d'un rare talent, mais à l'épreuve de fortes turbulences et de vents contraires, le métier de dirigeant est régulièrement mis en question. En effet, les déviances de quelques-uns, dans le cadre d'une crise particulièrement redoutable, ont fait naître une forme de scandale moral. Celui-ci est apparu à travers les avantages obtenus par ceux-là même qui paraissaient responsables de l'échec des entreprises, des licenciements, de la dégradation économique et financière et qui bénéficiaient à travers des mécanismes censés compenser la prise de risque, c'est-à-dire les hauts revenus, les stock options, les bonus, les parachutes dorés, qui bénéficiaient en réalité d'une rente de situation ou de statut. Il en est résulté une dégradation générale et sans précédent de l'image de l'entreprise et de ses dirigeants, laquelle est devenue rapidement insupportable parce qu'injuste pour l'écrasante majorité d'entre eux, dont le comportement n'avait rien de répréhensible. Dans ce contexte, le tribunal de l'opinion a porté son niveau d'exigence très au-delà des seules rémunérations, mais bien sur les principes de comportement et d'action de la classe dirigeante, une exigence d'exemplarité, d'un retour à des valeurs fondamentales, même si, à l'évidence, les rémunérations restent l'abcès de fixation. Les employeurs, chefs d'entreprise, ont enfin pris conscience de la nécessité de retrouver une crédibilité qu'ils n'auraient jamais dû perdre en s'appuyant sur une communication plus transparente et une autodiscipline suffisante. Ainsi est apparu le code de bonne conduite du MEDEF avec son comité des sages pour les rémunérations et tout récemment Michel Kamsus, grande référence morale, s'est vu confier une mission spécifique de surveillance en la matière pour les entreprises aidées par l'État. Tout ceci constitue des premiers pas qui vont dans le bon sens et sont hautement symboliques et ne demandent qu'à être confirmés. Par ailleurs, l'élaboration de la charte de déontologie des dirigeants salariés sous l'égide de la Fédération nationale des cadres dirigeants, la FNCD, a eu pour ambition d'apporter une réponse la plus précise possible aux attentes larges et fortes exprimées universellement par l'opinion en direction de la classe dirigeante et des élites. Cette charte des dirigeants salariés a édicté pour sa part des principes généraux en 8 points de comportement et d'action, dont bien évidemment celui des rémunérations. Sur ce dernier point, les propositions visent à maîtriser autant les niveaux que les mécanismes, lisibilité des règles fixes ou variables, niveau absolu, toute rémunération confondue, de cohérence par rapport aux règles applicables à l'ensemble des salariés et mesurable en valeur et dans le temps, en corrélation avec la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Chacun de ces principes exprime l'engagement individuel et collectif pris par le corps des dirigeants salariés vis-à-vis de la société civile et des parties prenantes à l'entreprise. Ce sont la loyauté, le courage, l'exemplarité, l'engagement professionnel, le respect d'autrui, la promotion de la qualité de la vie au travail, des règles de rémunération cohérentes et un comportement de citoyen responsable. Des valeurs fondamentales dont l'application à travers l'histoire a permis aux élites de continuer de bénéficier de leurs privilèges et de justifier leur position dans la société civile. Elles se mettent hors jeu lorsqu'elles l'oublient. Cette charte s'accompagne, point essentiel, de la mise en place d'une instance indépendante, le CODE, Conseil d'orientation et de la déontologie, chargé d'assurer d'une part la mise en place et le suivi de la charte de déontologie des dirigeants dans les réseaux signataires, qui représentent, je le rappelle, un dirigeant sur deux en France, et d'autre part, d'élaborer un rapport annuel sur l'application de la déontologie par les dirigeants salariés tels qu'ils l'ont exprimé. Cette initiative a été saluée au niveau européen et soutenue par les différents ministres du Travail, ainsi que par les plus hautes autorités de l'État. Ce code est constitué d'un mandataire de chacun des réseaux des dirigeants salariés. Il est placé sous la haute autorité d'un collège d'éminentes personnalités qualifiées, dont Bernard Ezembert, ancien conseiller du président Pompidou, Franck Bournois, professeur d'université, directeur général du CIFOP, le professeur de droit Philippe Langlois, William Naoum, président de l'Académie, Jacques Boisseau, vice-président de la commission spécialisée, qui lui représente le FNCS Énergie, ainsi que Guy Salziger, qui est président de l'Association des cadres supérieurs et des dirigeants de France Télécom, l'ACCED. À ce jour, l'ensemble des cadres dirigeants et des réseaux a adopté la charte de déontologie et ses principes, et la met actuellement en place auprès de ses adhérents. Ce rappel est important, car France Télécom, confrontée dans le cadre de sa profonde évolution, a de lourdes difficultés sociales, avec une série terrible de drames humains qui est venue endeuiller l'entreprise et les familles des salariés. Nos pensées, bien entendu, vont vers elle, ainsi que notre compassion. De leur côté, la direction et le management sont placés dans l'œil du cyclone et portent seuls, aux yeux des syndicats et d'une partie de la classe politique, la responsabilité de cette catastrophe. Cette précipitation a désigné à l'opinion des coupables boucs émissaires, a créé un profond malaise à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, et les médias eux-mêmes ont fait preuve, c'est à noter, d'une certaine retenue. D'ailleurs, dans ce sens, l'enquête récente du Figaro du 3 et 4 octobre auprès de nombreux psychiatres conclut ainsi « On ne peut ignorer la dimension individuelle dans ces suicides, même si elle est intimement liée à une problématique collective. Selon des spécialistes, il peut y avoir des effets de contagion que la médiatisation amplifie. Il ne faut pas tomber, disent-ils, dans le piège de l'entreprise tue. » Et d'ailleurs, le professeur psychiatre lui-même, Charles Sébrien, note « La prudence s'impose. Des épidémies de suicide par mimétisme ont déjà été recensées. Freud en a décrit dans les pensionnats de jeunes filles. Oui, il peut y avoir des effets de contagion, de facilitation par l'exemple. La médiatisation peut avoir une certaine résonance chez les personnes les plus fragiles. On ne peut pas négliger cet aspect des choses. » Il est évident que les conditions de travail peuvent contribuer à un passage à l'acte, mais pour moi, dit-il, la plus grande prudence s'impose quant à attribuer la responsabilité de cet acte à telle ou telle personne. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'entreprise tue. Cette explication simple ne peut satisfaire que des esprits simples. Certes, les faits sont là et le suicide traduit une profonde désespérance, mais il reste aussi l'un des grands mystères de la vie des hommes. Aussi, les conditions du contradictoire et d'un procès juste ne paraissent pas avoir été réunies, ni au plan de la détermination de la faute, si tant est qu'il y a. et encore moins pour l'éventuel lien de causalité. Fort justement, et c'est tout à son honneur, Christine Lagarde, ministre de l'Économie et des Finances, vient de renouveler sa confiance au président Lombard. Confiance et soutien auquel il convient d'associer le corps des cadres dirigeants qui a su, avant ce sinistre épisode, démontrer l'attention toute particulière qu'il portait au management des hommes, au respect d'autrui et à la promotion de la qualité de la vie au travail. Pour preuve, sa participation et son adhésion précoce à la charte de déontologie des dirigeants salariés. Cette initiative, aux côtés des autres dispositions prises par les chefs d'entreprise, notamment le MEDEF et par l'État, annonce la reconquête de l'opinion par les dirigeants, avec la volonté d'apporter une contribution déterminante dans la construction de ces itinéraires originaux du nouveau monde pour passer de l'avoir plus, qui reste l'apanage de la société de consommation, à l'être mieux, dont la bonne mesure relève, comme l'indique le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, plus du BIN, entendez bonheur individuel net, que du PIB qui intègre plus les aspects quantitatifs que qualitatifs. Dans ce sens, les avancées notables du dernier G20 à Pittsburgh au plan de la gouvernance mondiale et qui ont bénéficié de l'apport décisif et du volontarisme de nos dirigeants nationaux augurent bien de l'ouverture d'une voie concrète pour réconcilier les performances économiques et le progrès social. Il faut s'en réjouir. Merci à vous.